Et les cafés qui essaient de nous dépouiller. Les soleils brûlants, c'est l'été à New York. J'ai l'impression que ma cervelle se met à bouillir dans cette espèce de liquide rouge bleu où ça flotte une cervelle. Et lorsque je regarde la rue où je vais faire un tour, je regarde des rats gros comme des boîtes à chaussures. Dès que t'aperçois juste du coin de l'œil à la périphérie de ta vision, puis qui se volatilise à l'angle de la rue dans une bouche de métro quand tu fais volte-face pour bien la garder. Et je suis en si bon des états que mes mâchoires saignent chaque fois que je respire. Et au bout du cinquième jour, j'ai commencé à avoir des trucs qui ressemblent à des membres de petits enfants, des jambes, des bras, dans la gueule des rats, mais pas de maman ou de papa en pleurs pour corroborer ses visions. Et hier, mon pote et moi, on se promenait en pleine nuit avec de fins doigts, de bouchées, volées au rayon épicé fine de chez May ici, qu'on avait coincé entre notre ceinture et notre peau desséchée, dans l'espoir de trouver un pigeon à plumer dans l'Upper East Side. Une tapette a voulu nous lever, mais le coup de l'âne de mon pote est tombé de son fut au moment où le type ouvrait la porte de son immeuble. Bling, bada, boum, 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 boum. Il en aurait chié dans son froc. Ces hurlements rebondissaient dans la nuit sur le demi-million de fenêtres des immeubles voisins, et on a dû longer plus de 30 blocs, ventre à terre, avant de se sentir en sécurité. Certaines nuits, nous avions tant de haine envers le monde et nous-mêmes, et c'est idiot de retrouver ses parents adoptifs qu'il avait tenté d'empoisonner à la mort au rat le jour où il l'avait laissé sortir du grenier dans lequel il était enfermé depuis un mois et demi. Tu comprends, mon chéri, c'est les grandes vacances, on se passera de ta compagnie. Tiens, voici deux carafes d'eau et des céréales. Fais gaffe à pas tout manger d'un coup. On part en vacances sans toi, mais c'est mieux que si on te renvoyait à la DAS, hein. Comme ses parents avaient les papilles gustatives hyper sensibles, mon pote a fait 8 ans dans une prison pour psychopathe, alors que c'était qu'un enfant. Il caressait pourtant l'idée de retrouver les siens et de leur extorquer un max de blé pour qu'on puisse changer de vie. Parfois, la nuit, on couvrait 700 ou 800 blocs à pied, quasiment toute l'île de Manhattan, qu'on traversait d'est en ouest, du nord au sud, chacun d'à côté de la rue à ramasser toutes les bouteilles de pinard qu'on trouvait, et on les jetait en l'air pour qu'elles explosent en mille morceaux, et on les jetait en l'air, et on les jetait en l'air pour qu'elles explosent en mille morceaux, à quelques centimètres seulement des pieds du copain qui marchait sur le trottoir opposé, les nuits où ça nous démangeait. Toutes les cabines téléphoniques jusqu'à South Street se désintégraient en une pluie de lumière. Après ce genre de soirée, on dormait comme des loirs sur le toit d'un immeuble, dans une chaufferie, une bagnole abandonnée ou le repère d'une drag queen.
Je me rappelle qu'à 8 ans, vous avez coutume de me faufiler par la fenêtre de l'appartement situé au 7e étage, puis de m'agripper de mes 10 doigts fluets au rebord pour me hisser sur la merde voiture qui courait le long de la 8e avenue. Et je restais comme un con, parfois 5 bonnes minutes pour tester mes limites. J'aimais sentir la texture des briques au bout de mes baskets. Commençais à fatiguer, je me soulevais et rentrais me reposer quelques instants, puis je reprenais mon escalade pour me faire des tests. Comment maîtriser la situation? Combien de temps vais-je la maîtriser? Me reste-t-il assez de force quand je me lève, la bouche pleine de suie? Parce que j'ai dormi sur un toit couvert de merde d'oiseaux, que j'ai été réveillé par un soleil de plomb qui me cramait les paupières, et que je n'ai pas mangé grand-chose depuis 3 jours, à part le steak qu'on a chouré au supermarché et fait cuire dans une espèce de cantoche chez les clodos du Lower East Side. Même que les gens, ils étaient sympas avec nous. On avait l'air propre par rapport aux autres. Qu'est-ce que j'avais comme crasse derrière les oreilles? Ça faisait des mois que je ne m'étais pas lavé. Sauf de temps en temps, dans les toilettes pour hommes d'un café sur la 42e rue, entre 2 passes, avant de retourner faire le pied de grue pour qu'un connard aux yeux injectés de sang, la trogne rose et le portefeuille bourré de billets d'un dollar se collent derrière moi et me tripent. dépatouille le cul en me parlant de prendre du bon temps. Et pour moi, prendre du bon temps, bordel, c'était me pieuter tranquillement pour la nuit.
Paysage désert et étouffant confère un caractère érotique à l'univers. Au détour d'un virage, je découvre une équipe de cantonniers parmi un désordre de terre retournée et d'énormes machines. Je vois la peau brunie d'hommes en short torse nu, je vois les bras et les côtes d'un homme caché dans l'obscurité d'une cabine de tracteur. Je vois le dos courbé d'un homme brandissant une pioche à toute volée. Je vois la peau pâle et blanche des aisselles et la tache brune de poils humide d'un homme perché dans une grue au milieu des lignes téléphoniques, et je sens naître une boule dans mon plexus solaire sous mon t-shirt. La sensation croît, se répand dans ma poitrine telle une étrange fièvre, puis me prend à la gorge où sont réprimées de petites poches. Le véhicule s'éloigne de la Seine et je me retrouve à peupler les plaines arides, les collines et le ciel sans nuages. Il n'y a aucune différence entre la mémoire et la vue, le rêve et la vision. La vision se compose d'un fin mouvement parcellaire de l'œil. Ces petits morceaux de monde deviennent des souvenirs avant même d'atteindre le cerveau. Les images fantasmatiques sont constituées de millions d'observations distinctes, glanées parmi les formes et les textures de la pensée. Ainsi, lorsque j'aperçois les ouvriers prendre leur pose à côté des carcasses brûlantes de leur engin métallique, peu m'importe qu'ils s'évanouissent sur l'accotement quelques kilomètres derrière moi, je suis déjà plongé dans le jeu entre la vision et le souvenir, et je me repasse la scène de façon à ne pas être au volant, mais sur la route, désolé, la main tendue comme pour faire du stop, et l'un des gars a garé son pick-up sur le bas-côté. Maintenant, je me trouve tout contre son corps sur le siège avant. Nous avançons et parlons sans un bruit et il finit par quitter la route pour prendre une kyrielle de chemin de terre qui mène jusqu'aux collines couvertes d'arbres à l'allure psychédélique. Et il y a mes mains qui se tendent et il y a sa fermeture éclair qui émet un bruit imperceptible en descendant ralenti entre mes doigts psychédéliques. Il y a le goût du sperme psychédélique au bord d'un lac situé dans la pénombre des montagnes environnantes. Tout cela se déroule fiévreusement dans un paysage de plaine aride, observé par le pare-brise et dans le rétroviseur intérieur. Puis, c'est à nouveau la silhouette esselée de mon corps dans l'habitacle surchauffé de la voiture, mon pied sur l'accélérateur, qui me précipite 100 km plus loin, vers le rideau gris de pluie. 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 De pluie.
car il paraît que Louis est le dernier sens à nous abandonner. Parfois, lorsque l'infirmière me laissait seule avec lui, je prenais ses mains entre les miennes et me penchais pour lui murmurer à l'oreille. Hé, vieux, je ne sais pas ce que tu vois, mais s'il y a de la lumière, rejoins-la. S'il y a de la chaleur, rejoins-la. Si tu ne vois rien, alors essaie d'imaginer cet instant de quiétude perdu en plein ciel, à l'endroit où il se confond avec l'océan. Ce point m'est toujours apparu comme le lieu de tous les possibles. Le croisement dans l'espace et le temps où je pouvais me projeter en rêve dans n'importe quelle position. Alors je lui ai dit, rejoins-la, possède-la, épouse-la, la mort. Pourtant, je ne crois pas qu'elle participe d'un cycle qui se répéterait dans une autre vie. Et puis qu'est-ce que ça changerait de toute façon? Est-on censé économiser sa vie pour en vivre une autre? Je crois tout simplement que la mort, c'est le moment ultime où toute l'énergie contenue dans mon corps se dispersera. Aujourd'hui, c'est le troisième, ou le quatrième, ou le cinquième jour, que sais-je. Ses parents et deux de ses sœurs sont partis visiter l'Empire State Building. Moi, Philippe et Betty sommes auprès de lui dans la chambre. Le médecin vient lui retirer les pompes et les tuyaux sifflants, puis il s'empresse de quitter la pièce. Il y a une espèce de soleil brumeux, et les rayons courent dans la pièce. L'homme sur le lit prend sa respiration à deux reprises, puis arque le dos de manière quasi imperceptible. Ses lèvres s'entrouvrent. Je m'agrippe à une jambe. Sa sœur a une main. Philippe a l'autre ou à un bout de son bras, me semble-t-on. Et je n'en reviens pas de le voir mourir si calmement. Tout est si beau. Nous, qui le retenons sur son lit au 14e étage au-dessus du sol. Derrière les fenêtres, la lumière et le vent font la course, tandis que ses parents admirent la vue depuis l'observatoire de l'Empire State Building, perché à des centaines de mètres dans la lumière et les nuages. Et tout cela me semble tellement parfait. La terre continue de tourner. Ailleurs, il doit pleuvoir. Ailleurs, il doit neiger. Ailleurs, une forêt est en flammes. Ailleurs, quelque chose se déplace en eau trouble. Ailleurs, du sang ruisselle dans le vestibule d'un couple de petits vieux qui ne saignent pourtant pas. Ailleurs, quelqu'un entre spontanément en combustion. Et les mystères du monde, tel qu'il m'apparaît, me procure une sorte de réconfort. Pourtant, je n'y pige rien à ces histoires d'enfer et de paradis. Et de toute façon, ce n'est plus mon problème. Car désormais, je suis un homme qui fait 5 mètres de haut et pèse 274 kilos et se cache dans un corps d'un mètre 80. Et je ne sens rien que la pression. Je ne sens rien que la pression. Et il faut qu'elle s'échappe.
Et de dehors, la ligne est ténue entre la pensée et l'action. Cette ligne est formée de sang, de chair et d'eau. Et je me surprends de plus en plus fréquemment à rêver tout éveillé, que je trempe des flèches amazoniennes dans du sang contaminé, que je plante en plein dans la nuque de certains hommes politiques, des responsables de santé politique, des croix gammées ambulantes piètrement déguisées qui camouflent leurs dessins meurtriers sous leurs puces défroques, ou des fous furieux qui manifestent contre les cliniques pour malades du sida, la nuit, à la télé, dans les banlieues occupées, la ligne est ténue, très ténue, entre le dedans. Et le dehors, et toute ma vie est chercher des signes autour de moi, dans les médias ou sur les lèvres des gens, les bigots qui, devant la cathédrale, Puis aux hommes ou aux femmes qui vont aller les bras et la de ce vol, vous allez être réussi d'aller entre les femmes. Les régions des USA où on peut tuer un homme, puis une fois devant le jury, incluant parmi les catégories de victimes celles qui ont une certaine orientation sexuelle. La ligne est une des quatre qui disparaît de mon corps est remplacée par 5 kilos de pression, 5 kilos de rage. Je me concentre pour transformer ma rage en résistance passive, mais ma concentration faiblit peu à peu. Mes mains se mettent à remuer malgré moi et l'œuf commence à se craqueler. De prendre de nouveaux gardes du corps, et qu'il y a des dignitaires religieux ou des responsables de la santé publique qui feraient mieux de trouver des clébards plus gros et des clôtures plus hautes et une alarme plus fiable pour leur putain de baraque, et qu'il faudrait mieux que les rateveurs de Pellier fassent leur boulot dans des tentes à obusier, car la limite est très ténue entre le dedans et le dehors, et elle commence à se désagréger. Et je suis un homme qui fait 15 mètres de haut, pèse 561 kilos et se cache dans un corps d'un mètre 80, et je ne sens rien que la pression. Je ne sens rien que la pression, et il faut qu'elle s'échappe.
Good evening.
Je sens ma bite qui durcit. mais elles poursuivent tout leur chemin sans s'arrêter. Je me souviens d'un de mes amis qui est mort du sida. Alors qu'il est allé rendre une dernière visite à sa famille sur la côte, il était assis dans l'herbe autour d'un pique-nique auquel participait une quinzaine de convives, et tout à coup, il lève la tête de son poulet rôti et il dit « Moi, je voudrais mourir avec une grosse bite dans la bouche. » Il fait nuit noire maintenant. Je suis assis sur le capot encore brûlant de ma voiture. Lorsque je vois rentrer dans le parking un 33 tonnes, les freins grincent, la porte de la cabine s'ouvre en grand et un jeune type saute à terre. Il est torse nu, couvert de traces de sueur et de crasse. Il me fait un signe de la tête. Ça va. Moi, je retiens mon souffle. Il entreprend de faire le tour de son engin et il donne deux coups de pied dans chaque pneu. Puis, il remonte dans sa cabine, claque la porte, embraye, démarre et quitte le parking. Feu arrière allumé. J'étends mes bras dans l'air qui s'est rafraîchi. Je ferme les yeux et je me demande... comment ça serait de vivre dans un monde parfait? Dieu seul le sait. Et il est mort.
Thank you. Peter.